À l'occasion de la présentation à des stagiaires du film « L'école buissonnière », Freinet évoque les tout débuts de ce qui deviendra la pédagogie Freinet. Enregistrement réalisé par Lucien Reuge à Choisy-le-Roi en 1961.
Pourquoi ai-je cherché quelque chose dans la voie de ce que nous appelons maintenant l'école moderne? Vous savez, il en a fallu, comme dans beaucoup de choses dans la vie, il en a fallu de fort peu pour que rien ne soit fait de ce que j'ai pu faire. Quand je suis revenu de la guerre de 14-18, j'avais été assez sérieusement blessé, et notamment, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler longtemps. Surtout, pas parler dans une salle de classe. Lorsque vous êtes en train d'expliquer quelque chose, tu vois, mon petit, ça, c'est ça, et puis un gosse laisse tomber un crayon, allez, bon, il ramasse le crayon, donc il vous interrompt encore. Ensuite, vous reprenez le fil, et puis il y en a un autre qui fait taper sa table. Oh, mais tu n'as pas fini, toi, de nous embêter. Et puis alors, on reprend encore, et c'est un autre encore, dans pas mal de classes, surtout dans les classes surchargées, ça vous arrive bien souvent, de sorte que ce n'est pas un monologue comme le font certains professeurs, c'est de se tirer d'affaire avec les gosses, surtout que ce qu'on leur raconte ne les emballe pas. Alors, naturellement, bien souvent, ils le font même exprès de trouver une occasion pour un peu se dégourdir les jambes ou les bras. Et c'est ce qui m'arrivait à moi. Lorsque j'avais parlé pendant 10 minutes, un quart d'heure comme cela, je n'en pouvais plus. Et alors, j'ai cherché les solutions, ou bien je quittais l'enseignement à ce moment-là, ou bien je trouvais d'autres techniques de travail, c'est-à-dire une façon qui m'aurait permis de faire ma classe d'une façon intelligente, de m'intéresser à ma classe, et efficiente aussi, mais que je puisse tenir le coup. Et alors j'ai cherché à ce moment-là, c'était en 1925-26, j'ai cherché dans les divers mouvements d'école moderne. À la fin de la guerre 14-18, il y a eu un sursaut que nous n'avons pas eu après la guerre de 39-40. Il y avait des congrès, il y avait même eu une grande entreprise française pour rénover l'enseignement. Enfin, tout le monde s'intéressait beaucoup. Il y avait eu de grandes entreprises en Suisse, des écoles nouvelles qui s'étaient fondées, il y en a eu en Allemagne, un peu partout. Un gros effort était fait dans ce sens. Et alors, je me disais, mais peut-être là-dedans, il y aurait quelque chose d'intéressant. Effectivement, alors j'ai lu tous les livres, enfin, un bon nombre de livres qui étaient publiés. J'étais allé participer à des congrès, notamment des congrès d'éducation nouvelle. Mais quand je retournais dans ma classe, ensuite, je voyais que j'étais aussi embarrassé qu'avant. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui avaient fait ces expériences d'école moderne, tous ceux qui en parlaient, ou bien ils en parlaient théoriquement, ou bien lorsqu'ils apportaient des expériences, c'était des expériences qui n'étaient pas faites dans un milieu correspondant au nôtre et qui donc ne pouvaient pas servir. Lorsque, par exemple, Paul Gehebe, qui vient de mourir à 90 ans, racontait son expérience dans l'école de Lodenwald, mais une école où ils étaient 15 ou 20 enfants, des gens de très riches, avec 15 ou 20 professeurs, alors naturellement, ils pouvaient s'occuper de leurs enfants dans des conditions, nous reconnaissons, excellentes. Seulement, tout ce qu'ils faisaient n'était pas, absolument pas valable chez nous. Son expérience n'était pas valable chez nous. Et quand je me retrouvais dans ma classe, j'étais aussi embarrassé que là, exactement comme vous autres, lorsque vous participez à une conférence pédagogique. Mais le lendemain, vous êtes aussi avancé qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut que vous débrouillez tout seul. Et alors, ma foi, j'ai essayé de me débrouiller tout seul, moi aussi. J'ai tâtonné longtemps, j'ai fait des expériences. Et à ce moment-là, nous commencions à faire, vous savez, dans la Fédération de l'enseignement, qui pendant la guerre 14-18 avait été tout à fait à l'avant-garde. Dans cette fédération, nous avions lancé l'idée de promenade scolaire. La dénomination était très mauvaise, de promenade scolaire, parce que les parents dans les villages disaient « Oh, nos gosses, ils sont tout le jour dehors, on n'a pas besoin qu'on leur fasse faire des promenades, puisque qu'est-ce que c'est ces promenades ?» Mais n'empêche que l'idée était bonne, elle était d'avant-garde, mais elle était bonne. Et quand, dans mon petit village de Bar-sur-Loup, je prenais l'après-midi mes gosses pour les mener, leur faire le tour du village où on allait en passant regarder le boulanger ou bien on regardait le forgeron, puis on allait faire le tour dans la campagne, on ramenait toute une moisson de choses très intéressantes. Pendant ce temps-là, au moins, nous n'étions pas endormis. Parce que avant d'en arriver à cela, je m'endormais vraiment comme vous devez vous endormir, vous tous, lorsque l'après-midi, vous savez qu'on est en train de digérer. Et il y avait les tableaux Bocher dans l'école. Papa rit, maman a mangé. Je faisais venir mes gosses là devant, et puis ils lisaient ça. Papa, ils s'en moquaient pas mal. Au bout d'un moment, ils s'endormaient. Moi, je m'endormais. Ou enfin, il fallait faire effort pour tenir. Tandis que lorsque nous sortions dans le village, nous allions faire nos promenades. nous ramenions toute une jonchée de choses, d'idées et de choses très intéressantes. Et alors, à ce moment-là, nous faisions déjà un compte rendu au tableau. Nous mettions les choses intéressantes. Seulement, quand j'avais fini cela, il fallait que je dise au gosse, maintenant, prenez votre livre, page 128, et vous allez lire, parce qu'il fallait bien qu'ils apprennent à lire, à l'imprimer. Et vous allez lire ce livre-là. Mais là-dessus, il y avait quelque chose qui était absolument étranger à l'intérêt tel qu'il était mentionné dans le texte que nous avions fait. Et alors, ça, naturellement, ce qu'ils lisaient ne les intéressait pas, et ils ne s'y appliquaient pas. Ça n'avait aucune portée, ça n'entrait pas en eux, ça manquait d'efficience. Et c'est là que je me suis mis à chercher un matériel d'imprimerie, de façon que l'enfant puisse l'avoir fait lui-même, l'avoir mis en net au tableau, le composer ensuite et l'imprimer, et le lire ensuite en imprimé. Je sentais que ce serait très bien. Mais il fallait trouver d'abord la machine ou le matériel. C'était très difficile. Et lorsque j'en parlais un peu à mes camarades, ils me disaient, oh là là, tu penses bien que si quelque chose était possible comme ça, on ne t'aurait pas attendu pour l'expérimenter et le réussir. C'est pas la peine que tu cherches. Ma foi, moi, j'ai continué à chercher jusqu'au jour où j'ai trouvé une petite machine, on appelait la Lino, fabriquée par un original des environs de Paris. Et ma foi, j'avais une case d'imprimerie, j'avais les caractères, et on a déballé cela. Nous nous sommes mis à composer. Ah, les premières fois, nous composions que 3 lignes, 4 lignes. Et encore, je me disais, qui sait, comme tout ce que nous faisons, vous savez, quelque chose emballe les gosses, on le fait, mais au bout d'un jour, de 2 jours, ils en ont assez, puis il faut passer à autre chose. Et là, j'étais un peu inquiet, je me disais, qui sait, si ça va les intéresser. Alors le premier jour, on imprime un petit texte, puis le deuxième jour encore, et je me demandais, qui sait si ça continuera. Et puis, ça a continué. Une première étape était franchie, c'était déjà quelque chose de formidable. Et alors, tout de suite, j'ai pensé que ce qui serait bien, ce serait de profiter de cet imprimé que nous avions réalisé pour l'envoyer à d'autres correspondants. Et alors, il y avait un autre original comme moi qui avait acheté le matériel d'imprimerie. C'était Daniel de Tréguen Saint-Philibert Finistère. Il a le matériel d'imprimerie. Il a imprimé dans son petit village des textes en ballant. Or, c'était que 3 ou 4 lignes. Et puis, nous avons commencé l'échange. Tous les jours, donc, nous imprimions un texte. De 2 ou 3 fois par semaine, nous mettions les 30 ou 40 exemplaires de ce texte dans une enveloppe et nous mettions dessus École de Tréguen Saint-Philibert. Nous mettions un timbre de 2 centimes dessus. Puis ça arrivait. Et tous les jours, tous les 2 jours, nous recevions également un envoi de Daniel. Nous avions le livre de vie de l'école de Bar-sur-Loup. Nous avions le livre de vie de nos correspondants de Tréguen. Et nous lisions cela. Nous avions déjà 2 imprimés à lire et des imprimés qui signifiaient quelque chose. Qui signifiait une pensée de l'enfant, la pensée du correspondant de l'enfant. Là, j'ai senti tout de suite ce qu'il y avait d'emballant dans tout cela. Et après, c'était si intéressant. D'abord, nous avons complété cet échange par des échanges de lettres et puis par des échanges de colis. La première fois qu'on a reçu un colis, vous le verrez encore dans le film « L'école buissonnière », il y avait naturellement des crêpes bretonnes. Et alors, nous en avons tous un peu mangé et ils en ont tous emporté une ou un morceau à leurs parents. Le lendemain, oh, mais il faut leur envoyer des olives, il faut leur envoyer des fleurs d'oranger. Et il a fallu faire un colis le lendemain pour leur expédier également. Alors, nous avions déjà réalisé l'intérêt des correspondances interscolaires telles qu'il continue à être assuré dès maintenant. Surtout que maintenant, nous pouvons le continuer encore par les échanges magnétophoniques. Il est certain qu'à cette époque-là, si un de nos enfants avait entendu son correspondant lui parler, alors ça aurait été encore plus décisif. Si, après lui avoir parlé, en fin d'année, il aurait pu faire ce que vient de faire Mme Reuge avec une correspondante de Fontaine-Légret dans l'Aube, si nos gosses avaient pu partir, s'en aller à Saint-Philibert de Tréguen, débarquer là-bas, être reçus, comme nous l'avons fait avec d'autres écoles, être hébergés par les parents d'élèves et vivre là pendant 2 ou 3 jours, puis ramener ceux de Tréguen Saint-Philibert chez nous, alors là, il se fait un brassage d'idées, un brassage de personnalités. Tout ce hiatus, tout ce qui fait que l'éducation actuellement ne rend pas, parce que toutes les techniques traditionnelles sont isolées de la vie, c'est-à-dire que l'enfant ne voit aucun besoin. On lui fait apprendre à lire, mais qu'est-ce qu'il s'en moque d'apprendre à lire, surtout que maintenant il lit les journaux illustrés ou les livres, vous savez, avec tous les dessins américains. Il n'a pas besoin d'apprendre à lire, il regarde les images. Il a la télévision, il n'a pas besoin de savoir lire, il voit les images. Il n'éprouve pas le besoin de compter parce qu'il y a les machines pour compter, plus qu'est-ce qu'il s'en moque. Alors les enfants de notre génération n'essaient plus de comprendre, n'essaient plus de travailler, parce qu'il y a quelque chose qui est décroché. Il y a quelque chose qui est décroché entre les techniques de l'école qui endorment les individus, et y compris l'instituteur, quelque chose qui, je sais pas, qui ne nous remue plus comme au début du siècle. Au début du siècle, ça remuait les instituteurs, ça remuait les enfants. Maintenant, non, ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas l'enfant, ça ne concerne pas l'instituteur. Le résultat, c'est que tout le monde se désintéresse de l'école, les enfants se désintéressent de l'école, et l'instituteur se désintéresse de l'école. Alors nous rétablissons les circuits. Et je vous montre comment, en 1925-26, nous avions rétabli les circuits, et le procédé est toujours le même. Si nous parvenons à rétablir les circuits, alors tout va bien. Les enfants s'intéresseront à leur travail, s'intéresseront aux études, et l'instituteur s'intéressera également à son travail. Alors, nous avons ensuite, peu à peu, amélioré nos techniques, mais ça n'était la base.